Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la seconde partie de La Voix est libre, la France sous vidéosurveillance. C'est toujours le thème de notre débat du jour. Ils sont toujours avec nous Philippe Melchior, inspecteur général de l'administration, chargé d'une mission sur la vidéosurveillance au ministère de l'Intérieur. Pascal Mangin, adjoint au maire de Strasbourg et en charge du quartier de la Méneau. Raphaël Nizan, adjoint socialiste au maire de Schildikheim, membre du comité d'éthique sur la vidéosurveillance. Et enfin, Eric Heilmann, enseignant chercheur à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et aussi au grand spécialiste de la vidéosurveillance. Alors Strasbourg accueillait cette semaine, mardi et mercredi, les deuxièmes assises nationales de la vidéosurveillance urbaine avec des politiques, des spécialistes, des professionnels et des tables rondes. Vous avez notamment animé une de ces tables rondes, Philippe Melchior. Est-ce que c'est quoi ces assises? C'est la foire à la caméra, comme on dit certains mauvais esprits?
C'est un rapprochement responsables de collectivités locales, des hommes de sécurité, des industriels et des bureaux d'études pour essayer de faire le meilleur travail possible pour nos concitoyens dans ce domaine.
Alors, je le disais tout à l'heure, le gouvernement veut tripler le nombre de caméras en France. Vous avez été chargé par le ministère de l'Intérieur de travailler sur ce déploiement. Vous nous direz comment vous allez faire. Mais comme d'habitude dans cette émission, on va d'abord écouter ce qu'en pensent les Alsaciens qu'on a interrogés dans la rue.
Bah écoutez, je crois qu'il suffit de s'y habituer, comme toute chose. Hein. Je crois que c'est une bonne chose si ça réduit les dégradations des locaux. Je pense que c'est une bonne chose.
Est-ce qu'elles sont placées là où justement il y a plus de risques? C'est pas sûr. Hein. Je pense qu'il y a des lieux stratégiques quand même. Hein. Mais on n'en met pas partout. Donc il y a des quartiers à risque aussi où il n'y en a pas, je pense. Hein.
Le principe est pour protéger les gens. Quoi. C'est ça. C'est ça l'objectif. Hein.
Donc vous êtes plutôt pour?
Oh, je suis pour, oui. Ça me dérange pas du tout.
J'ai rien à me reprocher, donc j'ai pas de problème.
Ouais, donc il y a un moment où ça fait vraiment espion. Mais en soi, comme il dit, quand on a rien à se reprocher, bon bah c'est pas spécialement dérangeant. Mais c'est vrai que trop, ça peut. La liberté, après, il y en a plus, quoi.
C'est un peu dangereux, quoi. Parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut quand même aussi dans la rue.
C'est psychologique, c'est tout. Hein. C'est de savoir qu'il y a des caméras ou pas. Non, mais au contraire, ça peut être une bonne chose.
Je pense que c'est plutôt sécurisant que gênant. C'est toujours une bonne chose de savoir qu'on est en sécurité. Quoi.
D'un côté, je trouve bien, mais il faudrait quand même pas pousser trop loin. Quoi. Nous ne sommes pas dans un pays, un pays policier quand même.
Melchior, on voit bien quelques prudences quand même, même si les Français, selon un sondage paru la semaine dernière, sont largement favorables. Pourtant, tout n'est pas rose.
Nos compatriotes ont, dans cette affaire, au fil des années, évolué, me semble-t-il, avec sagesse, parce qu'on sait mieux maintenant à quoi ça peut servir, la vidéosurveillance, à quoi ça ne peut pas servir. Et on sait mieux aussi à quelles conditions ça peut servir. Donc je trouvais mes compatriotes alsaciens assez sages, disant « oui, attention ». Ils ont raison de poser la question d'éthique, par exemple. Tout cela doit être équilibré et raisonnable. Au total, quand même, on est devant un instrument utile, parmi d'autres, à combiner avec d'autres, mais réellement utile.
Alors, on va d'abord justement s'intéresser à l'efficacité supposée ou réelle de ce dispositif. Pascal Mangin, vous qui êtes adjoint du quartier de la Méneau. La Méneau fait partie des quartiers où ont été implantées les caméras au début, vers 2003. Est-ce que vous avez des résultats à nous donner?
Alors, il y a des résultats d'une politique de sécurité sur Strasbourg et à la Méneau. Ça serait présomptueux de raccrocher ces résultats uniquement à la vidéosurveillance. Ce qu'on peut dire, c'est que par exemple à la Méneau, depuis 2001, les véhicules brûlés ont diminué de plus de 40%. Les faits de voie publique ont diminué de plus de 35%. Alors, moi je souhaiterais rappeler que la vidéosurveillance s'est inscrite dans une politique plus globale de prévention également, avec la mise en place de conseils d'animation et de prévention qui ont permis aux différents acteurs de la sécurité et de la prévention de discuter entre eux. Ça s'est inscrit également dans une politique qui a permis le recrutement de policiers municipaux supplémentaires permettant à la police nationale de remplir d'autres tâches. Ça s'est inscrit dans une politique où le pouvoir politique, les adjoints de quartier ont été mis dans des lieux précis.
Donc c'est un ensemble.
Moi je pense que c'est un ensemble. La vidéosurveillance est un outil. Le concevoir comme l'alpha et l'oméga, ça serait, à mon avis, extrêmement risqué et totalement aller dans le mur que de construire une politique de sécurité uniquement sur la vidéosurveillance. Mais faire usage de cet outil, oui.
Mais quand même, j'ai peut-être mal compris, mais la ville de Strasbourg a beaucoup communiqué sur le sujet cette semaine à l'occasion des Assises nationales, en parlant d'une baisse de délinquance de voie publique d'au moins 30%. Donc tout le monde a compris qu'il y avait un lien de cause à effet.
Il y a un lien de cause à effet entre la politique de sécurité globale menée par la ville de Strasbourg et la communauté urbaine, puisque la vidéosurveillance dépend des compétences de la communauté urbaine, et le résultat. Mais dans cette politique figure l'usage de la vidéosurveillance. C'est donc un lien, mais un lien dans une politique globale.
Éric Hellman.
Je veux juste intervenir pour ajouter deux, trois choses, parce que après ce reportage et les premières interventions, il y a une sorte d'unanimité qui se fait autour de cette technologie. Bon, il faut quand même savoir qu'on peut quand même tenter d'entretenir un regard critique là-dessus. Moi, j'entends bien les chiffres qui circulent. D'abord, on a un mal fou à avoir des chiffres, on a un mal fou à avoir des évaluations.
Alors, quand on dit moins 30%, de
non, mais alors, on pourrait dire moins 30, moins 40, moins 50. Il n'y a aucun moyen de vérifier ces données. J'ai entendu quelqu'un qui nous disait dans le reportage tout à l'heure, ça avait baissé aussi pareil dans le centre de Strasbourg de temps et temps. Moi, je lis simplement un truc. Enfin, monsieur, l'auteur du rapport est sur le plateau, hein, c'est monsieur Melchior, qui avait signé en octobre 2005 un rapport sur la vidéosurveillance en France, et qui dit, s'agissant de l'évaluation, on a un très faible, je n'invente rien, c'est page 8, hein, on a un très faible niveau d'évaluation qui suscite peu d'études, trop souvent de piètre qualité. Et en matière, vous ajoutez, alors je ne sais pas si c'est vous qui signez ces mots, mais en tout cas, c'est dans le texte, en matière de lutte contre le terrorisme, l'information disponible est quasiment nulle. Alors, moi j'ai eu du mal, et les Strasbourgeois, s'ils voulaient avoir sous les yeux des études, des évaluations, il n'y en a pas. Il n'y a rien qui est communiqué. On demande aux populations de s'exposer au regard des caméras, mais le travail qui est fait, et avec quel résultat, c'est l'opacité la plus totale. Alors, Strasbourg n'est pas différent des autres, il n'y a pas d'études de fait. Et je ne comprends pas, on investit, ça me surprend toujours sur le terrain de l'évaluation publique, des politiques publiques. On investit des millions et des millions d'euros, sans doute des raisons légitimes, c'est pour les questions de la sécurité. Mais on pourrait quand même exiger de ceux qui investissent des sommes comparables de nous donner des éléments d'évaluation pour se dire, au fond, ça marche pour ça, peut-être moins pour ça. Or, de ce côté-là, blackout. Alors, juste un chiffre. Moi, j'ai les chiffres sur les... Moi, avec beaucoup de peine, je ne vous dirai pas comment j'ai obtenu, mais en tout cas, des chiffres des services de police. Il y avait un officier qui nous disait que tout ça était merveilleux. 30% de baisse des faits constatés 2003-2004. C'est les 12 premiers mois qui ont suivi l'installation des caméras. Donc, quartier hôtel de ville. Ben, je regarde à Neudorf, à l'époque, qui n'est pas du tout un espace vidéosurveillé, entre 2002 et 2004, on a 30% de baisse. Alors, j'aimerais bien comprendre, comment se fait-il qu'on a investi avec beaucoup de succès, j'espère, 30% de baisse pour le quartier hôtel de ville, mais on arrive quasiment au même résultat avec 30% de baisse dans un quartier où il n'y en a pas. Et encore récemment, à l'image d'une ville, moi je vous ai apporté ça, ça se trouve, hein, Le Monde 2, il y a quelques semaines, a consacré un article sur la lutte contre la criminalité à Montréal, hein, et on découvre en lisant ce papier, donc c'est un document public, que la baisse de la criminalité a atteint 40% en 15 ans, et il n'y a pas, j'y étais, enfin je travaille avec
eux, Québec,
Montréal, pardon, nos cousins québécois, et donc 40% de baisse en 15 ans, et il n'y a pas de caméra dans l'espace public québécois. Il y a 6 caméras à un endroit. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique. Vous savez quoi. Moi je veux bien qu'on dise.
Vous aurez de nouveau la parole, Eric Hellman, mais vous êtes d'abord reposé la question à Véronique Melchior. C'est vrai, est-ce qu'on sait ou non évaluer l'efficacité de ces dispositifs?
Alors, il arrive que les rapports servent à quelque chose. Et c'est vrai quand même qu'à 2005, donc sur des documents 2004, nos évaluations étaient faibles, insuffisantes.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait alors de l'efficacité?
Aujourd'hui, on en sait quand même plus. D'abord parce que plusieurs pays ont développé, parce que nous-mêmes avons un peu développé, hein, et qu'on a un peu plus de recul. Donc on sait bien dire sur quel type de délit la vidéosurveillance peut être efficace. Je bien dis peut. Et sur quel type de délit elle ne va pas l'être. Bon, si vous prenez des délits passionnels, la vidéosurveillance ne va pas être très efficace. Si vous prenez par contre des délits courants de voie publique ou des cambriolages, la vidéosurveillance va être efficace. Pour des cambriolages, très efficace.
Est-ce qu'elle est efficace, pardon, pour la prévention ou pour la résolution des les enquêtes à venir?
Pour la résolution, bien sûr, mais aussi pour la prévention. Alors, il y a des conditions pour qu'elle soit efficace pour la prévention. Et nous savons mieux maintenant, ce qui explique sans doute l'évolution d'attitude de nos compatriotes. Hein. Nous savons mieux maintenant quelles sont les conditions, et plus de collectivités et de services de police locaux remplissent ces conditions. Il faut d'abord que les images soient d'une qualité convenable. Ce n'était pas toujours le cas. Il faut que ces images soient renvoyées à un PC où quelqu'un les regarde, ou bien qu'un signal déclenche une alerte. Et il faut surtout que les services de police puissent intervenir. Comme M. Mangin nous disait tout à l'heure, la vidéosurveillance est un outil sans doute central, mais un outil d'une politique de sécurité, il avait raison. Donc, on sait mieux dire, on sait un peu mieux faire, et donc je crois que, outre l'effet sur le terrorisme, c'est une des raisons de l'évolution d'attitude de nos compatriotes.
Alors Raphaël Nizan, qu'on n'a pas encore entendu, votre ville Chilicay, mais elle n'est pas encore équipée, elle le sera bientôt d'ailleurs, vous le réclamez, et pourtant vous êtes un élu socialiste, ça veut dire qu'il faut avoir des caméras dans sa ville.
Oui, mais de façon tout à fait raisonnable, il s'agit de garder un équilibre. Il faut d'abord rappeler, comme je le disais dans le sujet, qu'il s'agit d'un dispositif extrêmement coûteux, et que les Chilicois payent leurs impôts comme tous les autres citoyens de la communauté urbaine. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'ils soient privés, eux, de ce dispositif-là. Pour autant, que ce dispositif soit utile et circonscrit à certains espaces publics. Moi, j'ai cru rêver lorsque j'ai entendu Robert Grossman qui indiquait Strasbourg était il y a 10 ans la capitale des voitures qui brûlent, et maintenant tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis désolé, j'entendais aussi Pascal Mangin dire ça tout à l'heure, je ne suis pas d'accord du tout. Nous savons au contraire que, par exemple, sur cette question des voitures qui brûlent, on n'en parle plus. Ça, c'est peut-être la réalité, on va dire, médiatique, mais c'est le même nombre. Et pour participer avec régularité au Conseil intercommunal de sécurité et de prévention, je le constate. Donc, on nous balade, on nous raconte que la vidéosurveillance, c'est le miracle, c'est le nouveau veau d'or de la sécurité. Nous, nous sommes beaucoup plus réservés, beaucoup plus prudents. Pour autant, il faut protéger, et effectivement, il s'agit de moyens modernes. Nous devons en disposer, mais de façon raisonnable et raisonnée.
Pascal Mangin, est-ce que c'est, pour Strasbourg et pour ailleurs d'ailleurs, est-ce que ces vidéocaméras, ce n'est pas devenu une solution un peu de facilité pour des élus qui souhaiteraient comme ça apporter une réponse à la délinquance?
Non, ce n'est pas du tout une solution de facilité. D'ailleurs, ce n'est pas la solution, je le redis. C'est un instrument dans une politique globale. Ce qui est important pour un élu, par rapport à la question de la sécurité, dont je rappelle qu'un sondage à Strasbourg a montré que c'était une préoccupation essentielle pour 97%
des habitants de la caméra de surveillance, c'est pas une manière de leur fournir une réponse très rapide et facile.
Je crois, cher monsieur Arcer, que lorsque la police a eu la possibilité de faire des empreintes digitales, on a fait des empreintes digitales. Lorsque les policiers ont pu utiliser des voitures, ils ont utilisé des voitures. Il y a aujourd'hui une technique qui permet d'obtenir un certain nombre de résultats dans un cadre donné, à la fois législatif et judiciaire, la protection de la vie privée. Il faut utiliser cette technique, mais il faut se garder de considérer que cette technique serait la seule chose qui permettrait de produire un résultat. Je rappelle la mise en place des conseils d'animation et de prévention, donc l'ensemble des éducateurs de prévention spécialisés, les paroisses, les commerçants, la police, ensemble autour d'une table en train de discuter de la situation dans un quartier. Et dans le quartier dans lequel je m'occupe, à la Méno, eh bien, plus personne aujourd'hui ne parle de la vidéosurveillance. En revanche, tout le monde fait le constat unanime des périodes où les choses vont bien, des périodes où les choses vont moins bien, et dans les périodes où les choses vont moins bien, qu'est-ce que chacun peut faire à sa place, selon les responsabilités qui sont les siennes, prévention, répression, pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et c'est ça qui est essentiel, que chacun, à sa place, puisse remplir sa mission.
C'est vrai, Eric Kalman, qu'il y a une demande sécuritaire de la population.
Oui, la demande existe, mais vous évoquiez tout à l'heure l'enquête qui a été faite et qui a été qui a accompagné le discours de Madame la ministre de l'Intérieur la semaine dernière à Place Beauvau pour expliquer qu'il fallait multiplier et démultiplier encore l'installation de caméras. Il y a eu cette enquête qui a été faite, on interroge les Français, au fond, les Alsaciens donnent à peu près la même tonalité.
78% des Français.
Voilà, sauf que
le problème, c'est qu'on pourrait s'interroger sur les questions qu'ils vont poser. Parce que si on explique aux gens, voilà, vous avez 1 million d'euros à investir tous les ans pour faire fonctionner un système. Parce que c'est cher. Mon voisin l'a rappelé tout à l'heure. C'est très cher. C'est à Strasbourg, c'est à peu près, je crois, un an de grandeur, 1 million d'euros tous les ans pour faire tourner le dispositif. Et voilà, vous avez 1 million d'euros. Avec ça, vous pouvez, pour votre sécurité, c'est une question légitime, bien entendu, ça n'est pas discutable. Soit on investit dans des caméras, soit, par exemple, on investit dans des patrouilles, des gens qui sont présents sur le terrain. Eh bien, c'est cette question-là que j'aimerais bien qu'il soit posée et qu'on réponde. Et quand on a posé cette question-là, par exemple, à Glasgow, parce que c'est vrai, je travaille là-dessus, notamment sur la Grande-Bretagne, enfin, sur le Royaume-Uni, sur l'Écosse, et quand on a posé cette question-là à des jeunes femmes qui vivent dans un sentiment d'insécurité dans la ville de Glasgow, on leur dit, ben non, moi, à choisir entre des caméras pour la même somme, symbolique, et des personnes sur le terrain, des agents de proximité, des agents de municipaux, etc., nous choisissons la présence humaine. Or, et du coup, quand on pose ce type de questions, on a quelque chose qui en tout cas, au moins, est moins massivement une sorte d'adhésion. Moi, ça me gêne, cette adhésion, parce que j'ai l'impression que c'est vécu et c'est pensé par la population comme étant la solution miracle. Ça n'est pas vrai. Alors, c'est vrai que on pourra dire les choses s'améliorent entre 2005 et 2007, mais enfin, dans le rapport encore que Philippe Melchior signe en 2005, enfin, il nous dresse quand même un état des lieux assez catastrophique des choses en France, même si Strasbourg, effectivement, n'est pas la plus mal lotie dans ce domaine. Mais enfin, globalement, en France, enfin, la vie de surveillance, c'est quand même assez désastreux.
Je vais répondre, Philippe Melchior, et puis on partira en Angleterre. Oui.
Effectivement, Strasbourg est une des villes où ça marche bien.
De quel point de vue ?
En termes de coordination.
Avec la police.
Tout à fait. Et donc en termes d'efficacité. Non, c'est vrai que c'est bien. Alors, ce n'est pas la seule ville où ce soit bien, mais c'est normal, pour la vidéosurveillance, comme pour toutes les activités humaines, c'est inégal hein, dans notre pays. C'est vrai que Strasbourg, c'est parmi les villes où c'est bien. Je voudrais revenir sur la question du choix. Matériel, personnel. Hein? Est-ce qu'on met de la vidéosurveillance? Est-ce qu'on met des hommes? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut dire, il faut mettre des hommes. Et pas seulement des policiers, d'ailleurs, la sécurité, c'est plus complexe. Hein? Il faut mettre des hommes. Mais c'est bien que ces hommes aient un minimum d'outils. Et si ces hommes ne voient pas et sont aveugles, ce n'est pas pour eux facile de travailler. Donc il faut combiner les deux choses. Sur l'aspect du coût qui a été soulevé par nos deux amis, c'est vrai que la vidéosurveillance, de la façon dont on l'a fait jusqu'à présent, c'était quand même assez coûteux.
Plus maintenant ?
Pardon ?
Ça coûtera moins cher maintenant ?
Je crois qu'on peut arriver, et c'est un des résultats des travaux qu'on nous a demandé, je crois qu'on peut arriver faire diminuer non pas les prix, mais les coûts.
On dit que votre plan de triplement de caméras, bah votre plan, le plan du gouvernement, coûterait entre 5 et 6 milliards d'euros, c'est énorme. Hein?
Alors, attendez, ça, c'est le triplement du nombre de caméras.
C'est-à-dire...
Non, du nombre de caméras au total. Si vous voulez, il faut faire attention à nos chiffres, on ne va pas être trop long et ennuyer nos téléspectateurs, mais nous avons 350 000 caméras autorisées en France, et probablement 1 million de caméras qui n'ont pas à l'être parce qu'elles sont dans des lieux privés. Quand on compare aux 4 millions de caméras anglaises, il faut prendre le chiffre total.
Eh ben justement, ouais. vous permettez de faire la transition. On va repartir tout de suite de l'autre côté de la Manche, dont vous l'avez dit, pays pionnier en matière de vidéosurveillance. 4 millions de caméras surveillent les Britanniques.
Des milliers de caméras braquées sur les rues de Londres pour garder trace de la moindre allée venue, et parmi elles, un dispositif spécial qui permet d'enregistrer la plaque d'immatriculation de chaque véhicule en circulation. Le système est relié à ce quartier général où 90% de l'activité concerne le trafic et les petits délits.
Le système des caméras de surveillance est absolument infaillible, sauf si bien sûr un conducteur a l'idée de changer régulièrement de plaque d'immatriculation. Nous n'avons pas besoin de surveillance active, nous retrouvons quand nous le voulons la trace de toute voiture qui par exemple est entrée ou sortie de la capitale.
En matière de lutte antiterrorisme, c'est également ce dispositif qui a permis d'identifier des véhicules impliqués cet été dans l'attaque de l'aéroport de Glasgow, des voitures présentes la veille à Londres et dont on a pu retracer le parcours. Et c'est encore la vidéosurveillance qui a confondu les quatre auteurs des premiers attentats du métro de Londres en juillet 2006, après analyse de 80 000 enregistrements, une efficacité qui fait des envieux parmi les enquêteurs français.
Le système de vidéosurveillance français permet aujourd'hui de façon trop restrictive l'enregistrement de données et surtout la conservation des données. Or, pour avoir la preuve et comparer ce qui s'est passé à un certain moment avec un acte criminel, il faut faire cette conservation.
Reste que le système britannique, le plus complet au monde avec 4 millions de caméras, n'a pour autant pas dissuadé les terroristes de passer à l'acte.
Ça n'apporte pas quelque chose de plus pour identifier les réseaux terroristes avant les attentats. Et on peut penser que l'effet dissuasif en lui-même est limité si on a affaire à des terroristes qui sont des kamikazes.
Même constat dans l'affaire Amélie Delagrange, cette jeune Française assassinée à Londres un soir d'août 2004 et dont tous les déplacements ont été mémorisés sur les écrans de la CCTV sans que cela ait permis d'empêcher le pire.
En fait, Melchior, je crois que pour votre rapport, vous êtes rendu en Grande-Bretagne. C'est l'exemple à suivre, même si on voit bien que ça n'a pas empêché la tenue, les attentats notamment.
Ah, attention, ça n'a pas empêché l'attentat qui s'est produit. Vous ne savez pas si ça n'a pas empêché les attentats qui ne se sont pas produits.
Donc c'est l'exemple à suivre, la Grande-Bretagne ?
Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'expérience de nos collègues britanniques, mais il y a des enseignements à tirer de nos propres expériences et d'autres expériences, y compris américaines.
Raphaël Nizan, c'est aussi l'exemple pour chez Dikheim ?
Alors, nous, on regrette vivement, en tout cas à Chiticam, les îlotiers. Nous avions des îlotiers. J'ai posé d'ailleurs la question à Nicolas Sarkozy lorsqu'il était venu à Strasbourg en tant que ministre de l'Intérieur. Je lui avais dit, mais que sont devenus nos îlotiers ?
Mais sur l'exemple anglais, oui.
Ben, l'exemple anglais, ils ont des îlotiers. Ils ont des bobbies qui se promènent dans les quartiers et qui sont très appréciés de la population. Et nous, nous avons perdu cette police de proximité, justement par une volonté de déplacer le coût de l'opération sécurité vers les collectivités territoriales. L'État dit, moi je m'en occupe plus, d'ailleurs j'ai plus d'argent, je préfère mettre l'argent ailleurs, et c'est à la communauté urbaine, aux collectivités territoriales de se débrouiller avec ça. Alors nous sommes sensibles à la volonté de sécurité de nos concitoyens, il faut que la collectivité protège, mais la première collectivité qui doit protéger les concitoyens, c'est la République, c'est l'État, sinon à quoi sert l'État ?
Eric Hamann, vous avez longtemps travaillé sur l'exemple britannique, pour vous ce n'est pas l'exemple à suivre.
Pourquoi c'est pas du tout l'exemple à suivre? Alors pour une fois, je vais encore paraphraser, puisqu'il est là, Philippe Melchior, qui disait dans son rapport 2005 qu'il faut une extension raisonnée de l'équipement et pas une extension tous azimuts. Et ce qui est invraisemblable, c'est que 2 ans plus tard, on a l'impression, en écoutant les déclarations de Madame la Ministre, qu'on est parti sur une extension tous azimuts, alors qu'on
sait
très
bien. Pourquoi la Grande-Bretagne n'est pas l'exemple à suivre?
Parce que c'est excessif et parce qu'effectivement, concrètement, pour arriver à une telle situation, il y a quand même à Londres, il y a 15 caméras par habitant. La ville compte 7 millions d'habitants. C'est quand même énorme. Et pour des résultats, que je trouve tout à fait contestables. Et puis ça s'est traduit, là je rejoins tout à fait ce que dit mon voisin, c'est un désengagement de l'État. C'est-à-dire que comment expliquer tant de caméras sur le terrain? C'est parce que l'État s'est désengagé et a dit aux collectivités locales en particulier, nous n'avons plus d'argent, occupez-vous de ces questions-là. Et là je reprends juste et je termine l'exemple de Rosheim. Moi je suis désolé, je n'oppose pas. Ne me trompez pas, c'est un peu rapide, mais je ne pose pas les âmes et la machine. Parfois, il faut les deux, on est bien d'accord. Mais parfois, quand je prends de Rosheim, on va avec des caméras dans la petite ville, le petit bourg de Rosheim, devant une école, enfin, je me dis, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. À choisir pour régler la question de la sortie des gamins d'une école, ce n'est pas des caméras qu'il faut. Et là, je trouve qu'on. Voilà, c'est cette surenchère, c'est cette pensée magique qui entoure, cette fascination pour les caméras, moi qui me désole. Moi, je milite plutôt pour un usage raisonné et on est loin du compte.
On n'a pas beaucoup entendu et qui est peut-être fasciné par les caméras.
Oui, pas du tout, pas du tout. En tout cas, celle du plateau, absolument. Mais les autres, non. Moi, je crois que les propos de M. Hellman et de M. Nizan visent à trop schématiquement opposer une politique qui ferait des caméras l'unique solution contre un investissement dans les hommes. C'est pas du tout cela. Et moi, je retiens les propos de M. Hellman pendant le reportage qui disait « La vidéosurveillance peut rendre des services à des endroits précis, à des moments précis. » Et je crois que c'est de cela dont on se parle. Il y a à Strasbourg, enfin dans la communauté urbaine, à peu près une caméra pour 3000 habitants. Donc on est bien loin des proportions envisagées à Londres. Et encore une fois, là où les caméras viennent, elles permettent à ceux dont la mission est de faire de la prévention, dont la mission est de faire de la sécurité, de l'accomplir plus sereinement, sans pour autant qu'on leur retire des moyens. Et c'est cela l'important. Venez à la Méno, les chiffres sont ce qu'ils sont. Je pense que le sentiment des habitants reflète également cela lorsqu'ils sont interrogés. Plus de 80% sont favorables. Et là où les gens sont le plus favorables aux caméras, c'est là où il n'y en a pas, dans les quartiers les plus fragiles, parce que c'est somme toute là où la première des libertés, celle de la sécurité, celle de pouvoir rentrer chez soi, celle de ne pas avoir peur lorsque ses enfants rentrent de l'école, doit pouvoir s'exercer. Et pour exercer cette liberté, eh bien, il faut sans doute peut-être mettre en balance une autre liberté, celle de, du droit à la vie privée, mais la mettre en balance proportionnellement.
Bien, malheureusement, ce sera là qu'on devra s'arrêter. Le débat est loin d'être épuisé. En tout cas, merci à tous d'être venus sur ce plateau. Tout de suite sur France 3 Alsace, c'est le journal.